Bonjour mes frères et sœurs. Je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Si vous avez entendu ou lu mon témoignage, vous savez que jeune marié, Michou et moi, nous avons perdu un fils. Et alors que nous étions dans le chagrin, nous avons prié. Et dans cette prière, nous avons dit, Seigneur, tu nous as donné un fils, tu nous l'as repris, que ton nom soit glorifié. Nous ne te demanderons jamais pourquoi. Ce n'était pas facile, mais nous avons su, étant guidés par le Saint-Esprit, que c'était la meilleure chose à dire, la meilleure chose à confesser ce moment-là. Depuis, évidemment, les années ont passé, et nous avons tenu parole, et nous n'avons jamais demandé pourquoi au Seigneur. Et lui, de son côté, il ne nous a jamais dit pourquoi, il nous a repris notre fils. Par contre, nous avons rencontré des chrétiens qui sont venus nous dire pourquoi. Et le pire, ça a été un chrétien qui nous a dit « Dieu a repris votre fils parce que vous avez une télévision chez vous. » Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez dire à des bêtises pareilles? Heureusement, quelque temps après cela, j'ai rencontré T.L. Osborne et je devais lui apporter un trousseau de clés. Enfin, c'est toute une histoire, vous trouvez ça dans l'oracle, dans mon bouquin. Et puis, me trouvant face à lui pour la première fois, j'étais ému parce que c'est un homme que j'aimais beaucoup écouter, j'aimais beaucoup lire. Puis tout à coup, je me trouve face à face avec lui, et puis j'étais un peu fragile émotionnellement, donc bêtement, je me suis mis à pleurer et il m'a demandé pourquoi je pleurais. Et je lui ai raconté ce qui venait de nous arriver, la perte de notre fils, et Osborne m'a demandé, m'a pris dans ses bras, il m'a consolé, et il m'a donné la plus belle consolation en disant ceci. Il a dit, écoutez, Michel, ne demandez jamais pourquoi à Dieu. Mais ça confirmait ce que nous avions fait, mon épouse et moi. Écoutez, Michel, ne demandez jamais pourquoi à Dieu. Allez par tout le monde, ayez des enfants dans la foi, prêchez la parole de Jésus, et ainsi aider à la naissance de nouveaux chrétiens. Priez pour les malades, n'arrêtez jamais de faire la volonté écrite de Dieu, car ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça que Dieu veut. C'était magnifique. Alors évidemment, je l'ai beaucoup remercié, puis je suis sorti de là, et je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à Michou, mon épouse, et nous avons décidé de faire ce que cet envoyé de Dieu, T.L. Osborne, nous avait dit. Mes frères et sœurs, nous avons à vivre selon l'Esprit sur cette terre, selon le Saint-Esprit. Et la vie de l'Esprit ne tolère pas l'amateurisme ni l'improvisation émotive. Nous avons vécu 6 ans, comme ça, en prêchant, en conduisant des gens à Jésus, en guérissant les malades au nom de Jésus, en chassant les démons au nom de Jésus-Christ. Mais chaque matin, quand nous nous réveillons, nous nous retrouvions tous les deux dans une maison vide, sans berceau, sans enfant. Puis un jour, nous sommes descendus dans le sud-ouest, et pas très loin de là où nous habitons d'ailleurs, à quelques kilomètres de là où nous sommes actuellement. Et là, il y avait un serviteur de Dieu qui a prêché. Michou est allé demander la prière. Et comme il l'a béni, il a fait une prière pour mon épouse. Et puis ensuite, comme elle partait, il l'a rappelé. Il lui a dit, sœur, tu vas avoir une surprise. Dans un mois, tu vas avoir une surprise. Et en effet, un mois après exactement, eh bien, ma femme était enceinte. Et c'est Mélodie qui arrivait, Mélodie, notre fille. Notre fille chérie, qui maintenant nous a donné 3 petits-enfants, nous sommes comblés. Vous voyez, T.L. Osborne est devenu, quelque temps après, très peu de temps après, mon papa spirituel. Nous étions dans un hôtel. Le matin, nous prenions notre petit déjeuner et tout à coup, j'entends quelqu'un qui dit « Excusez-moi, la place est-elle libre ?» Je lève la tête et je vois Osborne. Je dis « Ah oui, bien sûr, elle est libre. Asseyez-vous. » Et Daisy est arrivée, ils se sont assis à notre table. On n'en revenait pas avec Michou, elle était vraiment étonnée. Et puis, il nous a parlé, il nous a dit que une semaine avant de venir en France, ils ont mis leur fils en terre, parce qu'il était donc décédé. Et il a dit qu'il n'avait plus à cœur de faire ce voyage en France, mais que dans leur chapelle de prière, à leur hôtel de prière, le Seigneur leur a dit « Allez en France et je vous donnerai un fils ». Et puis nous avons parlé, je lui ai montré une brochure que nous venions d'imprimer, il a regardé ça, il a dit « Mes frères ». Il a dit à sa femme « Je crois que c'est lui ». Elle a dit « Oui, je crois que c'est lui ». Et il s'est levé, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Il m'a dit « La première fois que je vous ai vu, vous veniez de perdre votre fils. Et là, c'est nous qui venons de perdre notre fils. Et je désire vous prendre comme mon fils spirituel ». Et voilà comment ça s'est passé. Vous voyez, mes frères et sœurs, je vous raconte ça pour vous aider, vous. Ne demandez pas à Dieu « Pourquoi ?». Laissez-le faire. Vivez vos journées, vivez vos nuits en faisant la volonté de Dieu, jour après jour, nuit après nuit, et le Seigneur prendra soin de vous. Donc, Ted Osborne, mon papa spirituel, c'était vraiment un homme bon, un homme équilibré, un homme de Dieu, doué d'une très grande sagesse. Vous savez, quand nous nous sommes engagés à suivre Jésus, selon 1 Pierre 3, 21, eh bien, on ne s'est pas engagé dans un itinéraire d'enfant gâté, mais dans un itinéraire de délivrance. Chaque jour, chaque nuit, nous apprenons quelque chose qui nous délivre de notre chair et qui nous fait croître dans les choses de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est une initiation, mes frères et sœurs, et ça se fait pas en un jour, c'est le chemin de toute la vie, de toute votre vie. On ne peut jamais dire « ça y est, je suis arrivé au bout, ça y est, maintenant j'y suis, j'ai compris, ça y est ». L'apôtre Paul lui-même disait « je ne prétends pas avoir atteint encore cette perfection ». Non, nous devons rester humbles, apprendre encore, pratiquer ce que nous avons appris, jour après jour, nuit après nuit, croître en sagesse selon Dieu. Et ça se fait pas dans l'agitation. Ça se fait pas dans l'agitation. Ça se produit dans le calme et la confiance. Il vous faut du calme. Il vous faut des moments de calme. Il faut les rechercher. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. En nous engageant à suivre Jésus, nous nous sommes engagés à porter son joug. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Et porter un joug, c'est pas confortable. Il nous a jamais caché ça. Il l'a dit clairement. On a tendance des fois à l'oublier et à lui demander de nous enlever ce joug. Mais non, on s'est engagé à le porter avec lui. Alors prenez courage. Il marche avec vous, portant le même joug que vous. Il est avec vous. Nous nous engageons dans une histoire difficile en nous engageant avec Jésus. Un peu comme dans un désert. Alors c'est vrai, il y a des oasis, il y a des moments merveilleux, c'est fantastique, mais la plupart du temps, c'est quand même monotone comme un désert, et aride comme un désert, et chaud et brûlant comme un désert. Je me rappelle, il y avait un vieux chant qu'on chantait dans les années 60, c'était « S'il faut traverser le brûlant désert ». Vous ne rappelez pas, vous ne connaissez pas, les vieux qui connaissent ça, hein. Le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Oui, il est avec nous, mais il utilise le joug, il utilise le rabot, il utilise la scie, la râpe, la ponceuse, la croix. Il nous fait perdre nos illusions d'une fausse sécurité. Nous devons marcher par la foi. Il nous appelle à une vie de renoncement. Renoncer à l'agitation de nos pensées, des pensées que les gens, des fois bien intentionnés, mais un peu bébête viennent nous lancer à la figure. Savoir être seul devant son Dieu, je vous invite à vous immerger en lui, dans l'immensité silencieuse de l'univers qu'il a créé. Regardez le ciel, cette immensité silencieuse. Quand j'entends la plupart des prières des chrétiens, des fois je me pose la question, mais est-ce que le peuple de Dieu a compris Luc 9, 23? Luc 9, 23, c'est « Si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Mon frère, ma sœur, tu es la personne que tu es, il n'y en a pas deux au monde comme toi, avec tes qualités et tes défauts. Et ton rôle, c'est de vivre avec ça, de remercier Dieu, de faire des progrès, d'être la personne que tu es sans rouspéter. Ah, si j'étais un tel, ah, si j'avais ces qualités, ah, si j'avais ce don, ah, si, ah, si, ah, si. Même avec l'âme tourmentée comme ça, même avec un corps humilié par la maladie ou que sais-je, ta vie est ta vocation. Ta vie, c'est ta vocation. C'est ainsi, tel que tu es, que tu as à expérimenter la vie dans cette condition mortelle. Tu as à travailler à ton salut avec crainte et tremblement. C'est un peu comme un artisan dans son atelier. C'est ton atelier et tu es l'artisan. Ton atelier, c'est ton existence. Et ta pratique religieuse, ben, c'est ta quête de ce que tu dois devenir. Parfait, comme ton Père Céleste est parfait. Waouh, tout un programme, hein. Ta quête, c'est de chercher à être ce que tu dois être en cherchant la profondeur des progrès au quotidien. Ne te désespère pas. Ce midi, je regardais encore, l'autre jour je vous en ai parlé, je vous en reparle parce que ça a évolué. Donc, ce midi, je regardais encore, pendant que je mangeais, la vigne qui est sur notre terrasse et qui est en train de bourgeonner. J'ai d'ailleurs mis une photo de ces bourgeons sur la page de Révélation Bible. Et je voyais ces bourgeons qui sont en train de d'éclore. Et je pensais, la vigne ne se pose pas la question, pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je suis une vigne ? Pourquoi je suis pas une rose ? Et pourquoi si ? Pourquoi ça ? Elle bourgeonne, elle porte des feuilles, puis après il y aura des fruits. Est-ce que tu as déjà pensé à ça ? La vigne ne se demande pas, est-ce que les gens me regardent ? Et puis, elle n'est pas obsédée par l'avenir. C'est notre chair qui est obsédée par le futur. Comment est-ce que je vais faire ? Comment je vais y arriver ? Comment je vais évoluer ? Et puis, que vont penser les gens si je fais ça et ça ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Mais ça va de pire en pire. Et puis, la grosse question, quand est-ce que je vais mourir ? Mon frère, ma sœur, ces questions, c'est quoi ? Eh bien, je vais te dire qu'est-ce que c'est ces questions. C'est une dictature. C'est une dictature. Jésus dit, renie-toi, porte ta croix, ose vivre à l'abri des pourquoi. Ose vivre à l'abri des pourquoi. Les réponses des amis de Job, t'en as pas besoin. Votre fils est mort parce que vous avez une télévision chez vous. Je porterai même pas de jugement. J'en ai porté, hein. Après, j'ai pardonné. Puis même, ce que vous voulez pardonner. On pardonne pas à un fou d'être fou. Il n'y peut rien, le pauvre fou. Oui, mais la Bible dit qu'il faut pas dire raca. Oui, je suis désolé, Jésus, il dit vierge folle, hein. On est cerné, mes frères et sœurs, par les vierges folles. Nous avons un chant qui dit « D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de Dieu qui a fait les terres la terre et les cieux. » Et ça, c'est dans un psaume, c'est une chose magnifique. Et puis il y a une chanson de Michel Fugain qui dit « Fais comme l'oiseau. » Fais comme l'oiseau. Hein, vole plus haut, vole plus haut, vole plus haut. Vole plus haut que tout ça. Ta condition mortelle est mortelle, c'est vrai, c'est mortel. Mais heureusement, heureusement, ta condition actuelle ne durera pas éternellement, et même les choses que tu vis aujourd'hui, demain tu ne les vivras pas, ce sera autre chose. Peut-être pire, peut-être mieux, on ne sait pas. Alors, ne perds pas de vue l'essentiel. Ta progression spirituelle. Tu es venu ici-bas, nous sommes venus ici-bas pour prouver à Satan et aux démons et aux crétins qu'ils ont eu tort de se révolter contre Dieu. Tout ce qui t'arrive est sous contrôle. Dieu tient tout sous son contrôle. Dieu tient tout dans sa main. Alors oui, tu as le droit de prier pour être délivré, pour être soulagé, pour avoir un temps de repos. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de crier à Dieu, tu as le droit de parler de ta peine au Seigneur, tu as le droit d'en parler aussi à tes frères et sœurs proches. Fais attention de ne pas parler à n'importe qui. Mais cela, ce que je te dis là, de prier, de pleurer, de parler à Dieu ou à tes frères et sœurs, tout ça, ça fait partie de ta vie intime. Dans cette intimité, tu trouveras la force pour continuer, c'est sûr, mais c'est ta vie intime avec Dieu, avec tes frères et sœurs très proches, l'Église. Cette intimité, c'est des moments précieux, mais très court. Ensuite, tu dois vivre, offrir un spectacle aux gens, aux démons, aux anges, mais aussi aux crétins qui croient que la télévision c'est du diable. Pardon, pardonne-moi Seigneur. Alors, fais briller ton visage, fais briller ton visage, montre un bon visage. Relève ta tête, occupe-toi des autres, aide-les. Ils ont aussi leur lot de souffrances. Alors, toi aussi, tu as ton lot de souffrances, mais occupe-toi des autres. Cherche à établir le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, toutes choses te seront données par-dessus. Ça, c'est le Seigneur qui le promet, n'est-ce pas? Occupe-toi des autres, aide-les. Montre un beau visage. Oui, mais Michel, moi, j'avais un frère, je me rappelle, il disait, je ne suis pas là pour faire du cinéma. Oh, ouais, tu n'es pas là pour faire du cinéma. Excuse-moi, Jésus, il a offert un spectacle à la croix. Lisez la Bible. C'est écrit le mot spectacle. Nous sommes en spectacle. Jésus-Christ était en spectacle pour vaincre les démons à la croix. C'est écrit. C'est vrai, et nous aussi, on est en spectacle, au milieu des souffrances, des tribulations, des moqueries, des méchancetés, de la maladie, de la pauvreté, ou que sais-je, de la diffamation, nous sommes en spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer comme visage? On ne va pas leur faire le plaisir, à ces démons et à ces idiots, de faire la tronche et d'être triste. Alors, on va leur montrer au contraire un beau visage réjoui. Ça va les énerver davantage, mais finiront bien par lâcher. La Bible dit « Résiste au diable, il fuira loin de toi. » Mon frère, ma sœur, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a fait du bien. Alors, comme disait ma sœur Camélia, si ça t'a fait du bien, mets ça dans ta poche avec le mouchoir par-dessus. Ça voulait dire « Garde-le bien, garde-le bien. » Et que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Merci de m'avoir donné ces quelques paroles pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur de les aider à faire ce que je leur ai enseigné aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.